Seniradom.com, la solution de téléassistance du groupe Vif présente.
Sud Radio, la jeunesse n'est pas un âge.
L'imagerie médicale progresse très rapidement et on peut désormais faire des diagnostics psychiatriques grâce à elle. Nous sommes en compagnie du professeur Jean-Pierre Pruvot, chef du service de neuroradiologie au CHU de Lille. Professeur Pruvot, bonjour.
Bonjour.
Il y a de grandes avancées en termes de diagnostic des pathologies psychiatriques grâce à l'imagerie médicale. Quelles sont ces avancées ?
Alors en fait, l'imagerie psychiatrique permet avant toute chose de faire un diagnostic différentiel. Parce que quand vous avez des symptômes évoquant des problèmes psychiatriques, ce qu'on appelle le premier épisode psychiatrique, en fait, très souvent, on n'a pas le réflexe de faire une imagerie. Et quand on fait une imagerie, souvent c'est un scanner cérébral, alors que l'IRM est bien plus performante et nous permet de faire des diagnostics différentiels déjà. Si on compare à l'AVC, le déficit focal brutal n'est pas toujours un AVC. Parfois c'est une tumeur, c'est une sclérose en plaques que l'on découvre et qui redresse le diagnostic. De la même façon, en imagerie psychiatrique, on permet de redresser des diagnostics et de voir que des maladies neurologiques peuvent se présenter avec des signes psychiatriques. Et en fait, on peut redresser les diagnostics et réorienter les patients en neurologie.
Alors, on ne peut voir ça que par l'IRM, pas par le scanner.
Alors, l'IRM est bien plus performante. Le scanner peut voir certaines choses, mais si je pense à certaines encéphalites auto-immunes qui donnent une présentation psychiatrique dans certains cas, l'IRM va voir des choses que le scanner ne voit pas. C'est pourquoi l'IRM est vraiment la machine de référence des maladies du système nerveux central et des maladies psychiatriques.
Alors, de 5 à 25% des premiers épisodes psychotiques auraient une origine non psychiatrique. Quelles sont ces origines ?
Alors, la plupart du temps, ce sont des pathologies infectieuses, inflammatoires, tumorales. C'est la plupart du temps, c'est ce qu'on va retrouver dans ces IRM. Et aussi, ne l'oublions pas, en pathologie inflammatoire, on a un certain nombre de personnes qui débutent une sclérose en plaques par un épisode psychiatrique et très souvent, ces patients leur disent on les oriente autrement alors qu'en fait, il faut avoir le réflexe de faire une IRM. On n'imaginerait plus aujourd'hui dans une occlusion abdominale ne pas faire un scanner cérébral en urgence. On n'imaginerait plus ne pas faire une IRM dans un AVC. C'est un peu le même réflexe qu'il faut qu'on ait aujourd'hui devant un premier épisode psychiatrique.
Et peut-on envisager de découvrir d'autres pathologies, par exemple ?
D'autres pathologies qui auraient à ce moment-là une véritable origine psychiatrique, oui. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple des hallucinations qui évoluent vers la schizophrénie. C'est un domaine que l'on travaille beaucoup à Lille avec Renaud Jardry, le pédopsychiatre, qui s'occupe particulièrement de ses enfants, qu'il nous adresse en IRM. Et on va retrouver dans une première hallucination, par exemple auditive, on va retrouver grâce à l'IRM fonctionnel d'activation, en fait c'est le reflet de la consommation d'oxygène, où vous avez en fait une hallucination auditive. Donc l'enfant entend des voix, ça le panique complètement parce que ça n'existe pas. Et en fait, il n'y a pas de point d'entrée, vous voyez. Si on fait une IRM fonctionnelle, tout ce qui se passe avant le lobe temporal n'existe pas, alors que là, vous m'entendez et le point d'entrée existe depuis le nerf auditif jusqu'au tronc, jusqu'à la zone auditive temporale. Et là, en fait, on va voir une zone qui, en fait, s'allume toute seule et qui consomme d'oxygène. Et nos séquences d'IRM fonctionnelles sont très intéressantes, car en fait, c'est de la désoxyhémoglobine, l'hémoglobine qui a perdu son oxygène, qui est très bien visible en IRM fonctionnelle d'activation sur des séquences très particulières qui vont permettre d'avoir une affinité pour la désoxyhémoglobine pour le faire et qui vont repérer ces zones d'imagerie fonctionnelle d'activation, ces zones qui sont hyperactives à l'origine de cette hallucination auditive. Donc, on le fait maintenant, mais dans le cadre de protocoles de recherche, ce qu'on veut, c'est étendre ça à l'ensemble des patients, car plus vite on fait le diagnostic, plus vite on peut faire un traitement qui ne repose pas que sur les médicaments, mais aussi sur la stimulation magnétique externe qui permet de refroidir ces zones, aussi sur la thérapie au niveau des familles, parce qu'on va lever l'état de panique, car l'enfant et la famille va comprendre ce qui s'est passé, et également sur des médicaments qu'on va donner de façon beaucoup mieux appropriée, sans oublier l'intérêt aussi pour le suivi. On verra ces zones fonctionnelles qui vont finalement s'éteindre petit à petit, et l'enfant qui va retrouver un très bon état.
Merci beaucoup, professeur Pruvot, chef du service de neuroradiologie au CHU de Lille.
Seigneuradom.com, la solution de téléassistance du groupe Vive, vous a présenté
Sud Radio, la jeunesse n'est pas un âge.